Les marchandes de sable, les évadés du mont Saint-Michel de Fabien Grégoire. Des pommiers en fleurs, des vaches qui broutent paisiblement, des alouettes qui volent dans le ciel gris-bleu. J'avais oublié à quel point ce pays peut être beau et apaisant. Pourtant, je ne suis pas tranquille. Je sens qu'il approche. Il est derrière cette ligne de peupliers ou à la sortie de cette courbe. Et bientôt, on ne voit plus que lui. Cette silhouette incroyable, comme un énorme navire échoué sur le sable. Un navire qui lance ses mâts de pierre vers le ciel. Un navire protégé derrière ses murailles et ses tours de guet. Sur les banquettes autour de moi, les touristes s'agitent. Le train va bientôt les déposer délicatement au pied des remparts, les semelles bien au sec et sans la moindre fatigue. Mes doigts se serrent sur le bois verni des banquettes. Les souvenirs remontent à la surface. Moi, quand j'ai quitté cet endroit, c'est les pieds dans la vase que je suis partie. C'était il y a plus de 80 ans. La digue n'existait pas et les touristes étaient bien rares. Ce n'est pas tant la peur de la marée qui les effrayait à cette époque. Ce qu'ils redoutaient, c'était surtout de croiser ces hommes et ces femmes qui occupaient alors les bâtiments de l'ancienne abbaye. Ces hommes et ces femmes que la justice avait rassemblés dans cet endroit perdu, la prison du Mont Saint-Michel. À l'époque, la flèche du cocher n'existait pas. La flèche du clocher n'existait pas. La digue, je l'ai dit, n'avait pas encore été construite et le mont était toujours une île. J'y étais arrivé en même temps que ma mère. Vivre là, c'était plus pratique pour lui rendre visite. Un après-midi par semaine, je montais jusqu'à la forteresse pour la voir. C'était devenu une habitude et j'ai trouvé cela presque normal. Les gardiens me fouillaient et vérifiaient le contenu de mon sac. Ils notaient mon nom dans un cahier puis me laissaient entrer dans la prison. Maman n'était pas un bandit de grand chemin. Une nuit d'hiver, alors que nous étions à la rue, elle avait volé une couverture de laine pour me tenir chaud. La justice l'avait condamnée à 5 ans de prison. Par malchance, c'est au Mont Saint-Michel qu'on l'avait envoyé. En ce temps-là, l'ancienne abbaye faisait peur. Selon certains, c'était la pire prison de France. On y croisait des prisonniers de guerre russes, des bagnards qui attendaient de partir vers des pays lointains, des mendiants, des voleurs, des meurtriers, des déserteurs. Dans les bâtiments, une bonne partie de l'espace était utilisée pour loger les prisonniers. Mais on trouvait surtout des ateliers où les détenus travaillaient pour gagner de quoi améliorer leur repas, s'acheter du cidre, du tabac ou des couvertures. Pour moi, tout cela faisait partie du décor. J'étais bien jeune et je m'étais vite habituée à cette ruche bruyante où l'eau ruisselait des plafonds, où le vent s'engouffrait par les fenêtres cassées, où il arrivait que des murs s'effondrent par manque d'entretien. La vie de la prison devait s'adapter à ces incidents. Ainsi, en septembre de cette année-là, les visites avaient lieu dans l'ancien cloître. C'est là que ma mère m'attendait, le dimanche après-midi. C'est à cet endroit que tout a commencé. « Bonjour, mon Augustin. » Maman était très pâle ce jour-là. « Qu'est-ce qu'il y a ? » ai-je demandé. « Ce n'est rien, mon chéri. C'est cette humidité qui me fatigue. » Elle semblait respirer avec difficulté. « Le soleil me fait du bien. » Heureusement que... Une quinte de toux l'empêcha de finir sa phrase. Lorsqu'elle ôta le mouchoir de devant sa bouche, je vis nettement une tache de sang dans les plis du tissu grisâtre. « Maman, ce n'est rien, mon chéri. Viens plutôt voir ce que j'ai trouvé. » Elle m'entraîna dans un angle de la galerie et me montra l'une des planches qui était clouée à la place des anciens vitraux. « Regarde, j'ai fait sauter le nœud du bois. On peut voir toute la baie par ce trou. » Pour éviter que la vue n'inspire aux détenus l'envie de s'évader, le directeur avait fait boucher toutes les ouvertures donnant sur l'extérieur. Pour ma mère, ce petit hublot vers la liberté était une vraie bouffée d'oxygène. La baie, moi, je la connaissais par cœur. À marée basse, j'allais y ramasser des coquillages dans la vase des chenaux. Je savais reconnaître les endroits où le sol est ferme et où l'on peut passer sans s'enliser. Je savais à quelle heure la mer commençait à descendre, mais surtout à quel moment il fallait quitter les bancs de sable pour ne pas se faire prendre au piège de la marée remontante. Dans mes paniers, j'entassais des kilos de coques que je vendais ensuite pour payer le loyer de la petite chambre que j'occupais dans le village. Nous étions nombreux à vivre de la mer. Les bateaux de pêche que l'on voyait passer à marée haute venaient des ports de Cancale et de Grandville. À cette époque venaient d'apparaître les premières bisquines, ces petites embarcations qui allaient se multiplier dans les années suivantes. Nous autres, habitants du Mont, pratiquions surtout la pêche à pied. On nous surnommait d'ailleurs les pieds rouges à cause de nos orteils gelés par l'eau glacée. Alors, petit, la pêche a été bonne ? C'était Jules, l'un des gardiens de la prison que je connaissais bien. 5 kilos, et des beaux. Oh oh, ça mérite bien un petit verre de cidre. Attablé devant l'une des tavernes du village, nous bavardions de tout et de rien. Jules avait perdu sa femme quelques années plus tôt et s'était retrouvé gardien de prison un peu par hasard. C'était l'homme le plus gentil que j'ai connu. Régulièrement, entre deux visites, il me donnait des nouvelles de la prison. « Ça ne va pas fort à l'hôtellerie. Il y a des fissures grosses comme mon poing dans le mur ouest. On va devoir évacuer tout le bâtiment. » L'hôtellerie, c'était l'aile de l'ancienne abbaye où dormait la majeure partie des prisonnières. Moi, mes nuits, je les passais dans un bout de grenier que me louait un couple d'épiciers. La plupart des maisons étaient occupées par des pêcheurs ou par des employés de la prison. À cette époque, il y avait déjà quelques touristes, mais fort peu nombreux. On les reconnaissait à leur belle tenue qu'ils tentaient de préserver des taches de vase. Par l'unique fenêtre de ma petite chambre, je les voyais se promener sur les remparts. L'été finissait, on allait bientôt retrouver le froid de l'hiver. Elle ne va pas bien du tout, elle tousse énormément. Pour la première fois, maman n'était pas au rendez-vous à l'heure de la visite. Je l'avais retrouvée à l'infirmerie, soignée par un petit groupe de religieuses. Celle qui dirigeait les soins s'appelait Sœur Euphrasie. Elle semblait vraiment inquiète pour ma mère. « On doit la libérer au printemps. »« Ça ira mieux quand elle sera sortie, » dis-je d'une voix incertaine. Ce n'est que dans 8 mois, je ne suis pas sûre qu'elle tienne aussi longtemps. » La réponse de la sœur Euphrasie m'avait fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. J'avais quitté la prison en serrant les dents et j'étais allée directement chez Jules pour tout lui raconter. On pourrait demander une libération pour raison de santé, mais ça prendrait des semaines, m'avait-il expliqué. J'avais éclaté en sanglots. Ce n'est pas juste, Jules, ce n'est pas juste. Je sais, petit. Ce soir-là, je ne suis pas rentrée chez moi. Jules m'a laissé dormir chez lui au coin du feu. Mais je sais qu'il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Vu sa maladie, l'idéal ce serait de l'emmener à Jersey. Tout en nous promenant dans le village, nous discutions de la situation. Où ça ? À Jersey, c'est une île anglaise qui se trouve à quelques heures de navigation d'ici. La justice française n'y a aucun pouvoir, et le climat est tellement bon que les fleurs y poussent par milliers. Il suffirait d'y aller en bateau, en profitant des grandes marées. Mais Jules, ma mère est une prisonnière. Je le sais, bon Dieu, qu'est-ce que ça change ? Puis, à voix basse, en regardant autour de lui, pour s'assurer que personne ne pouvait l'entendre, il ajouta : Elle ne serait pas la première à s'évader du Mont Saint-Michel. Jules venait de lâcher le mot qui occupait nos esprits depuis des jours : l'évasion. Il y en a qui ont réussi ? Demandai-je timidement. Évidemment, grogna Jules, mais on s'est toujours arrangé pour que personne ne le sache, sauf quand on ne pouvait pas faire autrement. « C'est possible alors ?» Jules me regarda droit dans les yeux. « Attention petit, on peut tenter le coup, mais il y a un vrai risque. Tu pourrais bien te retrouver enfermé comme ta mère, ou pire si ça tournait mal. »« Ça vaut mieux que de la perdre, » murmurai-je. « Mais toi Jules, qu'est-ce que tu risques ?»« Autant que toi petit. Mais je n'en peux plus de ce maudit rocher. Je suis prêt à partir avec vous. » De retour chez Jules, nous avons commencé à échafauder un plan. Je connais un pêcheur qui a une bisquine, et il me doit un service. Il ira nous attendre derrière ton blaine, à l'abri des rochers pour que les sentinelles ne le voient pas. Il faudra juste que ta mère arrive à marcher jusque-là. Penché sur la carte, Je songeais à cette île de Tombelaine, séparée du mont Saint-Michel par la moitié de la baie et par des chenaux où s'écoulaient les rivières venues de l'intérieur des terres. « Il faut qu'elle y arrive, » dis-je à voix haute, comme pour m'en convaincre moi-même. À l'infirmerie, Sœur Euphrasie avait réussi à convaincre une fois pour toutes le directeur de la laisser préparer du bouillon de viande malade qu'il fallait remettre sur pied. Grâce à cela, ma mère reprenait peu à peu des forces. Mais le problème demeurait. Comment la faire sortir de l'ancienne abbaye ? Tous les jours, lorsque la marée nous le permettait, Jules et moi tournions autour du mont pour essayer de trouver un itinéraire. Un passage praticable que personne ne connaissait. En vain. Malgré les encouragements de Jules, le doute me gagnait. Puis un jour, un grondement s'est fait entendre. Un grondement étrange, sourd, qui a résonné dans toute la baie. Nous avons juste eu le temps de lever les yeux pour apercevoir la masse de l'hôtellerie qui basculait dans le vide. Les fissures avaient eu raison du bâtiment, qui venait de s'écrouler d'un bloc au pied de la forteresse. Pendant de longues minutes, nous sommes restés immobiles, à regarder la poussière retomber sur le village. La surprise passée, le visage de Jules s'est éclairé d'un sourire radieux. « Le ciel nous vient en aide, petit !»« Comment ça ?» demandai-je sans comprendre. « Mais bon sang, regarde ! Le voilà notre passage pour sortir de la prison !» me dit-il en montrant la muraille éventrée au milieu des gravats. La période des grandes marées approchait, il n'y avait plus un seul jour à perdre. Le surlendemain, Jules monta tranquillement vers la forteresse pour prendre sa garde de nuit. Comme d'habitude, il portait à l'épaule l'épaisse couverture de laine dans laquelle il se roulait pour affronter le froid nocturne de la prison. « Tu es de plus en plus frileux, Jules !» plaisanta le gardien de l'entrée. « Gras comme tu ne dois pourtant pas souffrir du froid. Tu verras quand tu auras mon âge !» répondit Jules en riant. « Allez, bonne nuit quand même » ajouta-t-il à l'adresse de son collègue. Aussitôt arrivé dans la petite pièce qui lui servait de loge, Jules laissa glisser la couverture jusqu'au sol. « C'est bon, petit, tu peux sortir. »« J'ai failli étouffer là-dedans, » chuchotai-je en me débarrassant de l'épaisse toile. « L'essentiel, c'est que tu sois entré sans qu'il te voie. Maintenant, cache-toi dans un coin pendant que je fais ma ronde. » Sans perdre une seconde, Jules s'était élancé dans les galeries. Il revint et une heure et demie plus tard, l'air satisfait. « C'est bon, la voie est libre, on peut aller chercher ta mère. » Me poussant devant lui comme si j'étais un prisonnier, Jules me guida vers l'infirmerie. En contrebas, dans la baie, la mer s'était retirée très loin, vers le large. Sans bruit, nous sommes entrés dans le petit édifice qui abritait les malades. Nous l'avons aidé, ma mère nous attendait dans son lit. Nous l'avons aidé à enfiler quelques vêtements chauds que Jules avait apportés et nous sommes sortis. Dans un angle de la pièce, assoupie sur une chaise, la sœur Euphrasie n'avait pas bougé. Je me suis toujours demandé si elle dormait vraiment à ce moment-là. Suivant les indications de Jules, nous nous sommes engagés dans le labyrinthe de couloirs et de salles voûtées qui s'étalent dans le sous-sol de l'ancienne abbaye. En apercevant des fusées rangées le long d'un mur, j'ai jeté un regard à Jules. « Ne t'inquiète pas, petit, ça fait des mois que nous n'avons plus de munitions. » Des escaliers à descendre, des portes et des grilles à franchir, d'autres escaliers à monter. Sans que j'aie bien compris notre itinéraire, nous nous sommes retrouvés dans les ruines de l'hôtellerie. Dans la journée, des ouvriers avaient commencé à y installer des échafaudages pour déblayer le chantier. En nous faufilant parmi les planches et les épaisses poutres, nous avons commencé notre descente vertigineuse vers le pied de la forteresse. « Surtout, avancez doucement, » disait Jules. « Le plus important, c'est de ne pas faire de bruit. » Avec d'infinies précautions, nous nous sommes glissés parmi les blocs écroulés et les pièces de charpente éparpillées. Malgré ses forces revenues, ma mère avait bien besoin de notre aide à tous les deux pour progresser au milieu des obstacles. Plus d'une fois, un pas de travers a provoqué la chute d'une pierre. Mais les sentinelles n'y prenaient plus garde, tant il est vrai que les gravats n'avaient pas besoin de nous pour dégringoler. Il nous a fallu près d'une heure pour atteindre le pied du monticule et nous enfoncer dans les broussailles pour contourner les remparts et les sentinelles qui y montaient la garde. C'était bientôt la pleine lune, mais heureusement, de lourds nuages encombraient le ciel. Nous avons pu atteindre la berge sans être vus. Nous nous sommes alors élancés à travers la baie en direction de Tombelaine, tout en soutenant ma mère qui commençait à peiner pour avancer. « Nous avons trop tardé. Il faut accélérer si on ne veut être pas pris au, si on ne veut pas être pris au piège, me chuchota Jules. Être pris au piège, de quoi parlez-vous ? S'inquiéta ma mère. De la marée, maman, mais ce n'est rien. Avance et tout ira bien. Nous progressions malgré la vase qui nous collait aux pieds. Le plus dur est fait, pensais-je en me retournant vers le mont. C'est là que j'ai vu les deux silhouettes qui étaient à nos trousses. Jules ! Me suis-je écrié en désignant du doigt les deux ombres qui gagnaient du terrain. Il a laissé échapper un juron. On a été suivis ! Ce sont des gardiens ? Ai-je demandé. Si c'était des gardiens, ils auraient donné l'alarme, fit-il visiblement soucieux. Il nous a fait signe de continuer à avancer, mais malgré nos efforts, nous avons bientôt été rattrapés. Ça alors ! Un gardien et une prisonnière qui se font la belle, et avec un gamin en plus. Armé d'un couteau, l'un des deux poursuivants s'était approché de Jules. Nous aussi, ça nous intéresse de partir d'ici. Où est-ce que vous courez comme ça avec une malade qui se traîne ? Vous avez bien un plan. Tu ne crois quand même pas qu'on va te le dire ? Répondit Jules d'une voix ferme. Qu'est-ce que vous avez prévu pour vous faire la malle ? Hurla le prisonnier. Parle moins fort, tu vas nous faire repérer, imbécile. Je m'en fiche, j'ai rien à perdre, moi. Alors, où vous allez ? Toi, va au diable, fit simplement Jules. D'un bond, l'homme se jeta sur lui et lui planta son couteau en pleine poitrine. Ma mère avait étouffé un cri. Jules s'était effondré sur le sable. Alors, où vous allez ? A continué le bandit en pointant le couteau vers ma mère. Derrière ton blaine, un bateau nous attend, et j'avouais dans un souffle. Le prisonnier s'est tourné vers moi et m'a lancé un sourire glacial. Eh ben voilà, c'était pas compliqué. Un coup de canon a alors retenti sur le mont. C'était le signal pour annoncer une évasion. Oh oh, on dirait qu'on s'est aperçu de notre absence, fit l'homme. Et, regardant Jules allongé à terre et ma mère à bout de souffle, il ajouta en ricanant. Vous avez l'air un peu fatigué, mais à votre place, je ne traînerai pas dans le coin. Son compagnon éclata de rire et ils s'élancèrent vers Tombelaine. Je me suis jetée vers Jules. Il se tenait le ventre à deux mains. « Ne perdez pas de temps, partez sans moi, je vous rejoindrai dans quelques semaines. »« Mais Jules, » ai-je bredouillé, « pense à ta mère, petit. Moi, je saurai toujours me débrouiller avec mes collègues. » La gorge nouée, sans pouvoir ajouter un mot, je me suis relevée. Je savais que Jules avait raison. Je lui ai tourné le dos, et maman et moi nous sommes enfuis. Jaillissant des remparts du mont, toute une troupe de gardiens s'était jetée à notre poursuite. Les reflets de leurs lanternes scintillaient sur les bancs de sable. « Pars par là, Augustin !» a lancé ma mère en me voyant obliquer vers l'est. « Je sais ce que je fais, fais-moi confiance » ai-je grondé. « Mais ils vont être au bateau avant nous !» J'ai lancé un regard mauvais dans la direction de nos agresseurs. « Ça, ça m'étonnerait !» Quelques minutes plus tard, en effet, des cris de détresse ont retenti du côté où se trouvaient les évadés. Ils n'avançaient plus et semblaient gesticuler en tous sens. « Qu'est-ce qui leur arrive ?» demanda ma mère. Ils se sont jetés dans la gueule du loup, dis-je les dents serrées. Mon Dieu, les sables mouvants, s'exclama ma mère, qui venait de comprendre pourquoi j'avais fait un tel détour. Si le sable et la vase nous avaient débarrassés de nos deux agresseurs, les gardiens, eux, étaient toujours à nos trousses. Heureusement, nous avions enfin atteint la berge du chenal principal qui s'écoulait entre le mont et Tombelaine. Le flot commençait à monter et j'avais déjà de l'eau aux genoux. De justesse! « Dans 2 minutes, on ne pourra plus passer. » En effet, lorsque les gardiens atteignirent le chenal à leur tour, le courant était déjà trop fort. Ils durent battre en retraite. Comprenant le danger, ils prirent juste le temps d'emmener Jules avec eux et sauvèrent de justesse les deux prisonniers de la noyade à l'aide d'une corde qu'ils leur lancèrent. Chassés par la marée, ils se replièrent au trot vers le mont. De notre côté, nous n'avons pas pu traîner non plus. Le flot était aussi sur nos talons. Mais c'était un ennemi que je connaissais bien. Maman était à bout de force et toussait comme jamais, mais nous sommes finalement arrivés à Tombelaine à temps pour nous mettre à l'abri. Comme Jules l'avait prévu, la Biskine nous attendait de l'autre côté de l'île. Les marins nous ont aidés à remonter à bord et nous ont offert à manger et à boire. C'était de solides gaillards, moitié pêcheurs, moitié contrebandiers. Se rendre complice de notre évasion ne semblait pas les effrayer le moins du monde. Nous avons attendu 2 bonnes heures, le temps que la marée haute soulève le navire et que le courant nous entraîne vers le large. Les marins ont alors largué les amarres, hissé les voiles et mis le cap vers la haute mer. Après cet effort violent, maman avait peu à peu retrouvé une respiration plus calme. Épuisée par sa marche forcée à travers la baie, elle s'était assoupie au fond du bateau. Pour ma part, le calme des marins m'avait complètement rassurée. Blottie à l'arrière de la bisquine, je regardais le mont Saint-Michel s'éloigner dans la brume du matin, comme un mauvais souvenir qu'on laisse derrière soi. Tout cela s'est passé il y a bien longtemps, mais chaque détail de cette aventure est resté gravé dans ma mémoire. Ma mère a vécu encore de longues années sur l'île de Jersey avant d'être terrassée par la tuberculose, sa maladie des poumons, attrapée dans l'humidité de la prison. Après sa mort, j'ai quitté Jersey et navigué sur toutes les mers du monde. Quant à Jules, il ne nous a jamais rejoints. Blessé trop grièvement par le coup de couteau, il est mort 2 jours après notre évasion. Il a été enterré sur le mont Saint-Michel, dans le petit cimetière de l'église Saint-Pierre. C'est pour lui que je reviens aujourd'hui.